pas comme les autres. Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Geneviève Peterson est avec nous. Geneviève, bonjour.
Salut Benoît.
Alors, tu vas nous parler de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, j'imagine?
Ben non, Benoît.
L'esprit de contradiction.
Non, mais c'est pas parce que ça me tentait pas. Moi, je suis pas une spécialiste de la politique américaine.
Non,
pour vrai, puis j'aille ça, parler à travers mon chapeau. Je laisse ça aux gens dont c'est le métier, pas de parler à travers leur chapeau. Les politologues, les gens qui sont des spécialistes. On en a plein ici, très compétents. Mais j'avais envie de te parler d'un phénomène bien américain. Les tueurs en série, parce que je viens de terminer le visionnement d'une série très, très populaire sur Netflix qui s'appelle The Night Stalker. Mm-hmm. Et avant qu'on se lance plus loin, je suis allée un peu parce que, tu sais, je t'en ai déjà parlé un petit peu, mon mémoire de maîtrise portait, je l'ai pas terminé, là, il manque 10 pages, puis je les écrirai jamais. J'ai eu le temps de me rendre assez loin quand même. Portait sur les tueurs en série. Donc, je me suis intéressée beaucoup à ce phénomène-là. Puis, dans la recherche, très tôt, on se posait cette question-là. Est-ce que c'est vraiment un phénomène américain? Est-ce que c'est vraiment un phénomène anglo-saxon? Puis, plusieurs experts en sont venus à la conclusion suivante. La question qu'il faudrait davantage se poser, c'est pourquoi cette tendance américaine à mettre en scène une violence, cette violence-là qui est complètement exorbitante, exacerbée, une violence spectacle en quelque sorte, parce que c'est de ça dont il s'agit. Pourquoi on met en vedette dans la culture populaire des gens qui sont réputés pour avoir tué des dizaines de personnes, souvent des femmes, parfois des centaines? Puis il y avait un article super intéressant dans le Monde diplomatique sur les tueurs américains. Il parlait des tueurs, puis tu sais, le Monde diplomatique, bon, c'est un journal un peu à gauche, mais je trouvais ça intéressant.
Mais les Français, ils ont un angle particulier sur les tueurs en série. Ils ont comme une fascination de la culture américaine.
Ben oui, puis dans l'article, on faisait un parallèle intéressant avec le capitalisme. Il disait que les tueurs en série, c'est un peu la représentativité du capitalisme américain. Tu sais, par exemple, si on parle de Ted Bundy, là, c'était vraiment le golden boy en chef, là, quelqu'un d'hyper charismatique. Quelqu'un qui est à l'aise en société, donc qui participe vraiment bien de l'écosystème américain, un homme qui est impliqué en politique aussi à un tel point que quand c'est venu aux yeux de la police, quand il s'est présenté comme étant un suspect, les gens voulaient pas le croire. Mais ça, le tueur en série, dans sa mécanique, c'est une mécanique, c'est vraiment comme l'espèce de processus d'industrialisation du meurtre. Donc, je trouvais ça intéressant comme hypothèse de départ. Puis, on se dit en même temps, les tueurs en série, désormais, ils font partie du mythe américain. Ils font partie de la culture populaire. On peut en nommer, là, comme ça, au bout des doigts, des tueurs en série, on les connaît. Puis, bon, évidemment, on a une espèce de fascination, puis c'est ça que je questionne, pourquoi on est autant fasciné. Puis là, j'en viens à Night Stalker. Moi, je vois ça passer sur mon compte Netflix, c'est en haut, il nous suggère du contenu, la magie des algorithmes. Je vois que c'est un contenu qui est très, très populaire. Puis là, je vois la pub. Puis là, je suis comme Et avant, je me serais garoché là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Là, je suis comme ça me tente-tu vraiment d'écouter ça? Pourquoi je vais écouter ça? Puis ce que ça raconte, en fait, c'est la quête des policiers pour mettre la main au collet de Richard Ramirez, qui est un tueur en série, qui était un peu, un énigme. Parce que ça se passe dans les années 80. On commençait à faire du profiling, c'est-à-dire de faire des portraits un peu type pour essayer de pogner ce monde-là. Puis lui, il échappait à tous ces portraits-là. Il n'y avait pas de modus operandi. Tu as du monde de tous les âges, des hommes, des femmes, et surtout, il les assassinait souvent avec des armes à feu, ce qui est très rare pour les tueurs en série. Donc, c'est un casse-tête pour la police. Donc, ça, c'est pour la petite histoire, mais The Night Stalker, depuis le début, a quand même essuyé son lot de critiques parce que c'est assez graphique. C'est assez sensationnaliste, puis tu me disais que tu l'avais commencé. Je sais pas comment tu trouves ça, mais moi, dès le départ, je me sentais dans un mauvais documentaire style Canal D, là. Tu sais, un peu jaune, un peu tabloïd. Puis moi, je me dis tout le temps, Colin, il me semble que si, parce que ça se passe quand même, il y a pas si longtemps que ça, là, il reste encore des familles de victimes qui sont en vie, là. Là, il y avait des photos de madame, la tête éclatée. Des photos de pieds ligotés. Des gens qui ont visiblement été agressés sexuellement avant de mourir, qui sont décédés dans des souffrances absolument abominables. Puis là, on nous montre ça. Puis là, on nous décrit ça. Puis là, j'attendais comme la grande conclusion. Parce qu'on nous a habitués depuis quelques années à voir des documentaires true crime un peu plus relevés, là, qu'une analyse sociologique. Tu sais, on a eu Making a Murderer, qui était quand même de grande qualité. Don't Fuck with Cats aussi, qui suit un peu l'enquête qu'ont menée des internautes pour pogner Luca Rocco Magnotta. Par ailleurs, si vous l'avez pas vu, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Et c'est pas graphique. Moi, c'est ce qui me faisait faisait peur, on voit rien. Puis Night Stalker, j'ai trouvé que c'est fait. En tout cas, moi, ça me fait peur. Littéralement, là, quand je peux aller me coucher le soir, c'est monté un peu comme un film d'horreur. Il y a de la musique, tu fais des sauts. Tu sais, rendu à certains... ils attendent jusqu'à l'épisode 3 pour montrer le tueur, mais ça fonctionne vraiment avec la gradation. Puis je me suis demandé pourquoi. Tu sais, pourquoi on fait ça? À qui ça sert et à quoi ça sert? Puis pourquoi on est autant fasciné par ça? Puis...
mais c'est quoi le but?
Ben c'est ça, je comprends.
Avant, ouais. Non, mais avant toute chose, là, c'est quoi le but? Puis des fois, je pense que c'est de vendre des tickets en montrant la souffrance qu'on impose aux femmes. Il y a comme une chasse aux femmes qui est tolérée dans la culture populaire. On en fait un divertissement. Puis si on chassait n'importe quel groupe dans la société et qu'on en faisait la promotion de la même façon, pas sûr que ça passerait autant.
Ben, c'est très épeurant aussi écouter ça quand t'es une femme, et paradoxalement, ce sont les femmes qui écoutent majoritairement ce type de contenu.
Ah oui?
Oui, moi je me rappelle, j'avais lu un livre écrit par une amie de Ted Bundy. C'est une journaliste qui était très proche de Ted Bundy. Elle a écrit un livre sur sa relation avec lui.
Il était très séduisant. Hein? Il était beau. Là. C'était un beau gars.
Ah, c'était un golden boy. Oui, oui. Et puis, elle racontait un peu son modus operandi, mais tout le monde le sait. Là, c'est pas elle qui racontait. Souvent, il faisait à croire d'être blessé, d'avoir un bras cassé. Puis moi, ça m'était tellement resté dans la tête qu'à un moment donné, en France, dans le sud, j'habitais là un peu, puis... il y a un gars sur le bord de la rue qui m'avait demandé de l'aide pour monter quelque chose dans son camion, puis j'avais dit non. J'avais tout de suite pensé à Ted Bundy.
Parce que t'allais monter avec, non?
Ben, j'aurais jamais monté avec parce que j'ai trop lu d'affaires
non,
de tueurs en
mais
série.
Au lieu de monter le meuble, c'est
non,
toi
j'aurais,
qui...
non, j'aurais pas monté avec. Ça, je te jure que non.
Mais c'est ça qui arrivait aux femmes avec Ted Bundy.
Ben, bien sûr.
Il leur demandait de l'aide, il les assommait, puis il souriait dans le char.
Dans le silence des anneaux, d'ailleurs, on a un peu calqué ce modus operandi-là, mais quand même, il y a Jacques Levin, qui est un célèbre criminologue, qui s'est intéressé un peu à la fascination qu'ont les femmes pour les tueurs en série. Puis lui, il dit, c'est pas compliqué, là. Ça fonctionne exactement de la même façon que la fascination envers les rockstars, envers les vedettes. Les femmes qui écrivent à ces gens-là, c'est la même chose. C'est l'attrait de la célébrité, l'attrait d'être spécial, d'être unique. Puis il y a le complexe de la sauveuse aussi qui peut entrer en jeu. Tu sais, Richard Ramirez, le gars dont il est question dans Night Stalker, il s'est fait une femme en prison. Il l'a courtisé pendant 11 ans. Il a écrit des tonnes de lettres. C'est une éditrice de magazine. Là, c'est pas une pauvre femme dans un coin de rue, une sous-scolarisée qui fait pitié. Non, non, c'est une femme. Là, tu regardes ça, ça a l'air d'être une femme qui a bien du bon sens. Là, c'est mariée avec. Elle a dit que c'est la plus belle affaire qui était jamais arrivée. Mais puis tu sais, la question on la pose, pourquoi on regarde ça, puis je n'ai pas la réponse. Pourquoi on regarde pas à la place Mindhunter, qui est une série absolument extraordinaire de fiction qui nous explique comment justement le profilage est né au FBI? J'en ai pas de réponse, mais il se passe de quoi là? Puis moi, je l'ai écouté jusqu'au bout parce que je voulais en parler avec toi pour vrai. Puis j'étais mal à l'aise à la fin, je me sentais sale.
Sale.
Ouais, je me sentais sale.
Il y a cet attrait du danger que je comprends pas. Là,
ben c'est que dans le fond, ça m'a rien donné d'écouter ça, mis à part de voir des femmes se faire torturer. Puis j'ai le même malaise maintenant avec les films d'horreur gratuits. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai écouté Hush. Hush, c'est un film d'horreur qui raconte, c'est l'histoire d'une femme qui est sourde et muette et qui se loue un chalet. Et ça dure une heure et demie de temps. Un gars essaie de rentrer dans le chalet. Ben moi, j'ai fini d'écouter ce film-là, j'étais en sueur. J'ai tellement eu peur, là. Puis je me disais, mais dans le fond, pourquoi on fait ce film-là?
Mais il s'est passé quelque chose. Je me souviens de Siskel et Ebert, les deux critiques à PBS à l'époque, des années 80, qui m'avaient fait réaliser, j'avais 20 ans, que là, tout à coup, la caméra devenait subjective et s'identifiait au tueur.
Fait que c'est toi, dans le fond,
c'est
le meurtrier.
C'est toi qui court après la fille dans le bois. Puis là, c'est quoi ton réflexe? Pogne-la, je veux qu'il se passe quelque chose. Là, c'est devenu vraiment vicieux. Là, cette
mais dans
façon.
Les années 80, dans les slashers, on avait une blague le soir parce que c'était la mode de sous les films-là. On se disait, bon, sexe, ton meurtre. C'était ça, là. Les slashers, c'était ça. C'était la fille blonde, un peu niaiseuse, avec des gros seins, qui se faisait tuer par Jason en premier. Pourquoi souvent? Parce qu'elle avait du sexe dans le bois avec son son petit ami.
Elle faisait du sexe. Non, mais il y a ce rapport-là là, qui est assez malsain. Hein,
ben
face
oui.
face à la souffrance, à la violence envers les femmes.
Puis qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est cathartique? T'écoutes ça, puis ça vient combler quelque chose? Moi, c'est le pas beau en nous.
C'est pas beau, puis ça peut craquer des pas fins non plus.
Mais je pense que oui, ça peut légitimer certaines affaires.
13h.
On y va à fond, évidemment, sur l'investiture de Joe Biden. Les États-Unis qui vont rester aux prises avec des groupes extrémistes, est-ce qu'il pourrait y avoir une guerre civile, des attentats? Je vais parler avec un ancien militaire, Martin Fogg.
Très bien. Merci, Geneviève.
Merci.
À demain.